Et moi, et moi.
Et vous.
Une série d'émissions présentées par Olivier Bas, réalisée par Philippe Labrousse, coproduite par les radios francophones publiques, consacrée à Jacques Dutronc.
Dutronc, attends. Tu veux dire le bout du tronc?
Non.
Cigare.
Jacques, c'est un beau garçon. Je ne suis pas pédé, mais c'est un beau garçon. Et c'est un garçon qui plaît beaucoup aux filles. Et c'est vrai, tout ce que j'ai dit, je le pense. Je sais qu'il a beaucoup de chats chez lui. J'espère que ça ne sent pas trop mauvais, parce que les chats, en général, ça fait pipi partout. Alors Jacques, bon courage. Je t'aime. Tu sais que c'est à la vie et à la mort avec toi.
Méfiez-vous. C'est un truand.
Dutronc, première, le début.
Donc j'ai appris, je ne sais où, parce que j'ai lu beaucoup de choses, que dans votre enfance, vous aviez 200 souris blanches chez vous. Est-ce que c'était vrai? Et est-ce que c'était pas trop difficile à nourrir, ces 200 souris blanches?
Effectivement, il y en a eu deux au départ. Deux. Et je ne savais pas que ça se reproduisait aussi vite. Non, je crois que je suis arrivé à 120. Mais je crois 120. 200, je ne sais, je m'en rappelle plus vraiment. Mais 200, ça me paraît beaucoup. Mais 120, j'en suis sûr. Ça empestait un peu, mais moi j'aimais beaucoup ces animaux-là, et les chats aussi d'ailleurs. Et enfin, bon, peu importe, je sais que je les ai vendus, enfin pas vendus, mais donnés à la... Ils m'ont donné des sous, je crois, enfin je sais pas où, à mes parents, à l'Institut Pasteur.
Pour faire des tests?
Ben non, mais je suis désolé, mais j'allais pas les tuer moi-même, je sais pas, personne en veut de souris, je sais pas.
Et vous aviez quel âge quand vous aviez donc 120 souris blanches,
hein? Oh, j'avais... 48 ans à peu près, 49 ans. Par contre, ce que je n'ai jamais eu, et je n'aime pas beaucoup, enfin, c'est pas que j'aime pas beaucoup, mais les oiseaux, ouais, je crois que c'est quand même... C'est fait vraiment pour voler. En cache, c'est un peu plus dur qu'une souris, quoi. Souris, elle est logée, nourrie, bon, à la limite, c'est pas mal. Ouais. Mais je les aimais beaucoup. Ouais. Alors, elles me grimpaient partout.
Et vos parents acceptaient ça?
Ben, ils ont tout accepté. Si avec les souris, ouais, c'est... je sais pas quoi leur dire. Maintenant, ils sont plus là. Et quand ils pensaient que le côté souris allait s'estomper, s'amenuiser, hop, je rachetais des hamsters.
Trois jours d'interview, de bonheur, allais-je dire, là-bas, chez lui, à Monticello, avec le grand Jacques, chanteur, compositeur, acteur, humain d'exception. Pour commencer cette série, la parole est donnée à monsieur Pierre Dutronc, par qui tout a commencé.
Quel défaut voulez-vous qu'il ait?
Oh non. S'il avait des défauts, il les tiendrait de moi, alors je ne les tiens pas du tout, non. Il n'y a aucun défaut. Chaque adolescent, oui, il était moins âgé déjà. Il a toujours été gentil, et c'est vrai. Il n'était pas difficile, pas du tout. Du moment qu'il faisait à peu près ce qu'il voulait, il ne réclamait rien. Moi, je n'étais pas riche du tout. Moi, j'avais juste mes appointements. Alors, c'est pas... Non, c'est beaucoup plus difficile. Et quand on a de l'argent, ça facilite bien les choses. Hein. Croyez pas?
Est-ce que vous êtes fier de votre fils?
Très. De mes deux fils, d'ailleurs. Je suis très fier. Je suis très fier de mes petits-enfants. Je suis très fier de toute ma famille.
C'est insoutenable. Ce n'est pas croyable, hein? Qu'il n'y ait que moi, oui.
Votre enfance, votre adolescence, quels souvenirs vous en avez? Puisqu'on avait dit qu'on ne ferait pas quelque chose de chronologique, on va commencer par le début, donc...
Ah. J'en sais rien, l'adolescence. Moi, mon adolescence, c'était les blousons noirs. Mais l'adolescence, j'y suis passé comme tout le monde. Mais je visais pas vraiment la suite. Moi, pendant l'adolescence, j'en profitais vraiment, ouais. Je me disais, je vais pas être ingénieur de mes couilles, là, je sais pas quoi. Enfin, je vivais vraiment l'adolescence, si je peux me rappeler. Je me rappelle de la boulangerie Sida, surtout. Elle s'appelait Sida. Ça. J'étais déjà à la mode, puisque j'habitais en face de chez Sida. Mais il y avait Cadeau aussi. C'était Cadeau, Sida. C'était les deux seules boulangeries de Paris. Et c'était l'immeuble en face, et donc j'avais droit à des... Parce que j'étais leur petit chouchou, et j'avais droit à des religieuses, je sais pas si ça existe encore, mais au café ou au chocolat, mais gigantesques, qui faisaient des trucs, des super magnums énormes, et des éclairs gigantesques. Donc j'avais droit à ça tout le temps. Ça fait partie de L'adolescence, c'est la rue de la Chaussée-d'Antin et tous les magasins. Et il y avait un magasin aussi, qui c'est Polastri aussi. Ouais. Il y avait des Italiens, là. Plus tard, après, quand on s'est connus plus tard, parce qu'il était môme, lui, alors, donc il sortait pas beaucoup, mais plus tard, je l'ai connu au square. Et je faisais du Lambretta avec lui le dimanche matin. Et je passais devant les vitrines et je voyais du saumon fumé. J'ai dit, putain, ça doit être bon, ce genre de truc, parce que je connaissais pas. Là, je me suis vengé, puisque je mange que ça, mais la télé, je la voyais uniquement dans une vitrine des Galeries Lafayette, où il y avait un monde énorme, parce qu'il y avait le Tour de France, c'était une des choses les plus importantes, et on jouait tous à ça. Hein. On avait les petits coureurs en plomb, petites conneries, là. Alors, j'étais un peu déçu, parce que Coppi avait pas le... et Kubler n'avait pas les nez qui correspondaient à Miroir Sprint. Ils avaient un pif extraordinaire. Ces mecs étaient profilés pour faire... Enfin, je sais pas, ils avaient un fuselage terrible. Il y avait ça, donc, devant les Galeries Lafayette. Une fois par an, il y avait la fameuse vitrine animée, là.
Qui existe toujours, hein.
Ouais, mais c'est nul, maintenant, je crois. Enfin, je sais pas si c'est nul, mais enfin, ça ne fait pas le même effet. Mais enfin, il n'y a pas que ça dans l'adolescence. Il y a les chaises pliées de square. Et je descendais les marches du Sacré-Cœur et de la Trinité à fond. Alors...
Des chaises pliées.
Ouais, des chaises de jardin là que l'on plie.
Ouais.
Et ben on descendait toutes les marches comme ça, comme une luge ou un machin. Ouais.
Mais attendez, le Sacré-Cœur, c'est quand même très loin de la Trinité. C'est...
Ouais,
vous alliez chez l'ennemi là alors.
Ah non, Trinité, c'est chez moi là.
Oui, mais le Sacré-Cœur.
Ah, le Sactus, non, c'était le. Non, non, ça va, je n'y allais en. Non, non, c'était mon quartier aussi. Mais... Ouais. Mais je veux dire, sur un enfant qui ferait ça maintenant, je dirais, ça va pas, non. Arrête de faire ces conneries. Mais moi, comme on me disait rien, personne ne me voyait. Bon. Et la pelouse était interdite du square de la Trinité. Et donc, dès que le gardien, que nous appelions Napoléon, non seulement par sa taille, mais par ses propos, il se tirait, tout le monde se roulait dans l'herbe. Et que faisaient les pigeons dans l'herbe? Voilà, à part sur les bagnoles. Et donc, je revenais couvert de crottes de pigeons. Mais... C'était mes premiers contacts avec la nature. Et puis il y avait une fontaine que j'adorais aussi. Je faisais de la glaise, enfin, je sais pas quoi. Enfin. Et il y avait tout la balustrade du square de la Trinité où je jouais avec mes Dinky Toys là-dessus.
Ouais, enfin, pas qu'avec les vôtres de Dinky Toys.
Ouais, enfin, mais je pense qu'il y avait une des plus belles collections. Bon, s'il m'en manquait une, effectivement.
Oui.
Comme il n'y avait pas beaucoup de marché comme maintenant. Maintenant, ça se troque les choses. Mais à l'époque, non, non. Mon papa, il m'a acheté ça et tu ne l'auras pas. Bon. Donc ça pouvait se voler, ouais. Mais ça je l'ai dit 100 fois, ouais. Le mec dès qu'il avait le dos tourné on l'enterrait, et après c'était, ouais. Alors culotte courte, il fouillait, je dis, ben, enfin j'en ai rien, et on déterrait 2-3 jours après, et on allait jusqu'à faire comme à Levallois à une certaine époque, il y a 30 ans en arrière, 30 ans, ouais. On maquillait un peu les voitures, je les repeignais, tout ça, ouais. Ouais, ouais. Avec des tout petits pots de peinture, là, vachement belles, ouais, pour modèle réduit.
Vous les avez plus, hein?
Si, si, il m'en reste. D'époque, qui ont fait le soir de la Trinité, si, si. Ah, ben, j'ai un camion Calberson que j'adore.
Bon, vous allez voir, en face de lui, pas facile de garder son sérieux et cet entretien est émaillé de mes ricanements. Tout au long de ce programme également vont intervenir ses proches, connus ou anonymes. Et pour l'occasion, s'il vous plaît, reconstituons le trio mythique du Square de la Trinité.
Sur France Inter.
Alors là, il y a Jacques, Johnny et Eddy.
Oh ben, je crois que c'est... Oui, quand vous dites c'est mythique, je crois que, je sais pas, c'est un terme qui a aussi été inventé, qui a fait du chemin. Je veux dire, simplement, simplement, bon, c'est des gens qui habitaient pas très très loin, hein, les uns des autres, que ce soit Johnny qui était rue des Martyrs, Jacques qui lui habitait pas très loin rue de Provence. Moi j'habitais absolument pas le coin, mais moi je traînais souvent là le midi, car moi je travaillais au Crédit Lyonnais, Crédit des Boulards des Italiens, et je rôdais jusque là parce qu'il y avait le disquaire qui s'appelait le Disque du Monde Entier, qui était tenu par M. Buisson et qui faisait les premiers imports américains, et j'y claquais un pognon fou et je venais. Donc je venais regarder mes belles pochettes dans le square et comme ça on rentrait donc tous ces gens.
Et qu'est-ce qui se passait alors pour qu'on en ait fait une bande comme ça? Vous parliez, il y avait des jeux, ça se passait, vous draguiez les filles, ça se passait comment?
Non, bon, on se rencontrait, mais comme vous voyez les mêmes tronches tous les jours, on finissait par vous dire bonjour, puis échanger des conneries. Mais je dirais, il se passait rien de plus. Hein.
Il y avait déjà la musique en point commun quand même. Vous en parliez ensemble, bon, on va dire tous les trois.
Oui, non, il y avait la musique. Il y avait surtout, enfin, la musique en ce qui concernait Johnny, avec qui j'étais déjà très proche, parce que Johnny, lui, avait, je ne sais plus, 14 ans, un truc comme ça. Ouais. Et Johnny, lui, était le petit enfant de la balle et chantait en attraction entre les numéros de son cousin Lee et Desta. Et quand ils avaient changé, il fallait qu'ils chantent un petit truc pendant qu'ils changent, quoi.
Je m'étais fait ami avec les éditions Salvet à Paris, qui avaient le catalogue Elvis Presley. Donc j'avais, si vous voulez, j'avais toutes les partitions d'Elvis Presley, Bill Haley, Dick Cochran, tout ça, je les avais par les éditions Salvet.
Et lui, par contre, recevait des États-Unis, chose alors, c'était carrément un martien pour moi, ce mec recevait des partitions. Les partitions de Bill Haley, de Presley, et donc viens chez moi, tu vas comprendre. Et c'est vrai que là, on était par terre. Il avait les partages, les vrais, mais on ne savait même pas que ça pouvait exister.
Oui, Mitchell, oui, je me rappelle, soit, enfin, moins que Johnny quand même, Eddie. Je me rappelle plus de Johnny quand même, qui passait en roulant comme s'il sortait du. Ben, c'est pareil, il a la même attitude, quoi. Bon. Sauf que là, peut-être que maintenant, il en rigole, peut-être, mais à l'époque. Quand il sortait de chez lui, rue de la Tour des Dames, non pas rue des Martyrs, mon cher Eddy, c'était. Il sortait du Stade de France, quoi. Non, mais ça impressionnait tout le monde. Et lui, c'est vrai que c'était son truc. Et depuis toujours, il l'a prouvé, point. Il n'y a rien à dire. Il a tout traversé. C'est le caméléon parfait. Mais pour résister à toutes les modes et tout ce qu'il a fait, c'est. Faut avoir une drôle de personnalité quand même pour être habillé en Davy Crockett, en Mad Max, en. Il a tout fait, tous les trucs, mais c'est lui. C'est lui qui en sortait malgré le costard. C'est lui, hein, quand même, il est toujours là et il en impose toujours, il en imposera à tous. Quand j'entends des imbéciles qui le dénigrent, qui. Attends, s'ils sont là, c'est grâce à lui, alors qu'ils arrêtent cela. Il devrait même lui verser des royalties à la plupart. Là.
Oui, j'habitais au 13 rue de la Tour des Dames. Et juste à 50 mètres, il y avait donc le square de la Trinité, avec l'église de la Trinité. Et puis là, on était, bon, une bande, c'est vrai, on jouait un petit peu les James Dean, quoi. C'était l'époque des rebelles. Rebelles dans la tête, pas tellement dans les faits. C'était les scooters bariolés, avec la queue de castor derrière. C'était les blousons de cuir noir. Les premiers blousons de cuir noir en France, d'ailleurs, avec les premiers Levi's 501. Et les bottes western, les fameuses bottes western, donc les Santiago. Jacques n'a jamais fait partie de la bande. Hein. Jacques, c'était un garçon tranquille. D'abord, c'était un garçon très timide. Moi, Jacques, je l'ai connu parce qu'on habitait le même quartier. Il habitait dans le 9e aussi. Mais surtout, on s'est surtout fréquenté plus tard quand on s'est vu au Golf Draw. Parce que le Golf Draw, c'était après le square de la Trinité.
Jacques, c'est un personnage qui a évolué, je veux dire, en se bonifiant au fil des années, pour arriver à ce point de gigantisme et de d'élégance qu'il est en ce moment. Non, je veux dire, Jacques, à l'époque, non, Jacques était très très myope, ce qu'il a toujours eu, mais avait peut-être pas les moyens. Je veux dire, Jacques avait des triples foyers, des lunettes un peu vertes, ce qui donnait quand même un regard assez étrange. Les cheveux courts et des boutons. Voilà, bon, c'était pas le playboy qu'il a été ensuite, et rapidement d'ailleurs.
Ah oui, vous confirmez.
Ouais. Alors, c'est vrai que j'avais les cheveux rasés, mais courts. Non, mais c'est bien. Attends, mais j'ai oublié un truc, les lunettes et quoi? Les grandes oreilles aussi?
Non, boutons. Les boutons.
Ah oui, les boutons, oui. Ah ben, alors, tiens, tu parles des boutons, ça peut. Toi qui fais de la radio, tu peux faire un enchaînement. Je sais comment j'appelais les boutons.
Les cactus.
Voilà, j'appelais ça des cactus.
On y reviendra plus tard.
Ah oui, non, mais je précise quand même, parce que c'est important. Hein. Ouais, boutons, ouais, j'en avais des beaux, surtout, hein, que j'ai filmé, j'ai le film, que j'ai filmé, j'étais à Marrakech, j'avais d'ailleurs, j'étais venu là-bas avec Alain Chamfort, le Govic à l'époque, Alain, et j'ai filmé ce bouton, je l'ai lui un peu dans la neige à Loukaïm Eden, et il y a je sais pas qui, je sais pas quoi, bon. Il y a surtout lui et mon bouton. J'ai filmé ça, mais j'avais un truc mais énorme. Et c'est là où j'ai le plus gros cactus du monde. C'est énorme.
Alors, on va se débarrasser justement d'une image de marque, entre guillemets, de Jacques Dutronc. On est bien d'accord, les lunettes, c'est pas du tout des Ray-Ban. Hein. C'est des Sunvogue.
Ouais, c'était des Sunvogue, ouais. Mais je l'essaye toujours, les Sunvogue. Mais elles me font mal, à force, elles sont complètement détruites. Mais le problème n'est pas là, c'est que je vois clair avec, surtout. Parce que je vois pratiquement pas d'un œil, et donc ça aide.
Ah oui, ça, je vous le confirme, quoi.
Mais lunettes blanches, j'ai beaucoup de mal, je ne sais pas, ben j'ai du mal. Ou alors sans lunettes, à la limite, ben alors je ne vois plus, donc c'est un autre... Puis on ne me reconnaît plus sans lunettes, alors ça fait chier, alors que c'est l'inverse, les autres... Bon, si, même avec les lunettes noires, si les mecs ne se retournent pas, je prends un cigare et là, c'est « Ah putain, c'est lui !» Donc là, ça va, je suis réconforté, je peux rentrer chez moi, tiens, ça va encore.
Vous avez le même problème que Paul Naref, quoi.
Non, Paul Naref, il a démarré, c'était Françoise Sagan. Moi, ça va, je ressemble pas à une écrivaine, à un écrivain, une écrivain, je sais pas comment dire. Non, lui, maintenant, je sais pas comment il est fou. Non, mais j'ai toujours aimé, c'était... Alors, voilà, tu parles de lui, mais bien, voilà un mec que j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé ce qu'il a fait, alors, j'ai vraiment... Hein.
Musicalement ?
Ah ouais, j'ai toujours apprécié ce mec-là, ouais. Toujours. Bon, qu'il montre son cul, ça, c'est bien, il a le droit de rire, en fait. Non, mais pourquoi pas ? Il y en a qui chantent, lui il a le droit de montrer son cul. Et j'ai toujours aimé ce qu'il avait fait. J'aimais. D'ailleurs, je chantais deux de ses chansons sur scène, moi, toujours.
Ah bon ?
Ouais.
Lesquelles ?
J'aimerais faire l'amour avec toi. Bon, ça devenait j'aimerais faire tic-tic avec toi, je sais pas quoi, mais je chantais ça tout le temps, et puis je sais plus quoi aussi de lui. J'avais pas un répertoire énorme. J'avais que quatre chansons. On m'a fait partir en tournée, donc chanter quatre fois les mêmes, mais ça devenait long et. Enfin, ça devenait un peu fatigant. Ils disent que il y a loin la coupe aux lèvres et que loin des yeux, loin du cœur, moi j'ai soif de ta chaleur. Et si tu ne me reviens pas, j'en rêve. Ventre affamé n'a pas d'oreille, mais moi j'ai faim et puis j'entends. J'ai faim de toi et je t'attends dans la nuit qui porte conseil.
Je ne dors pas, je veille. était bien, qui finit bien. Moi je veux bien les écouter, croire qu'ils disent la vérité. Ils disent que tu seras là demain.
Moi, et moi, et vous, la suite.
Où l'on apprend qu'être gravement malade peut être utile dans la vie, sans relation aucune, mais il est bon de savoir que Jésus, dont il sera beaucoup question, n'est pas celui que vous connaissez, mais l'auteur de l'impeccable bio de Dutronc, paru récemment.
La guitare, ça vient de... ça vient de mon frère, et puis de la Trinité aussi. Il y avait quand même, comme toute personne à l'époque, il y avait... un mec sur 10 ou une gonzesse sur 20 qui jouait de la guitare. Il jouait sous interdit, bien entendu, ou le soleil, lui, sur la route et sur les champs. Pom, 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 la, da, di, da, la, 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 bon, des trucs comme ça. Et mon frère, lui, jouait de la guitare un peu mieux que tout ça. Bon. Et moi, j'écoutais beaucoup de jazz et de Django Reinhardt. Maintenant, ça devient un pléonasme parce que tous les mondes sont obsédés de Django Reinhardt parce qu'il a la vitesse et la virtuosité. Il ne cherche qu'à se démarquer que la virtuosité, ce qui est une erreur terrible. C'est comme en bagnole, c'est pas la vitesse que l'on recherche. Enfin bon, peu importe. Donc, mon frère jouait un peu de guitare. Moi, j'en avais une, mais ça me plaisait sans plus. Mon père voulait que je joue absolument du piano, mais donc, il en a trop joué devant moi, j'en pouvais plus. Je détestais cet instrument. Il y a que quelques... Bien plus tard, j'ai pris conscience, c'était quand même un instrument à cordes. J'ai dit, ah, pourquoi pas. Mais bon, je regrette de ne pas avoir vraiment appris avec lui, bon, parce qu'il jouait très bien, et puis il en jouait tout le temps. Donc c'est ça qui m'a... Bon, je ne voulais pas faire le rebelle, dans le genre, il joue du piano, je ne veux pas en jouer, mais j'en avais marre. Mais... Il déchiffrait très bien, et il emmerdait tout le monde, parce qu'il chantonnait tout ce qu'il jouait, que ce soit du Bach ou je ne sais pas quoi, enfin bon. Ou des tangos, puisqu'il faisait des balles, il faisait un tas de choses. Enfin, il était assez varié. Mais lorsqu'il s'obligeait à jouer ce qu'on appelle de la musique dite classique, il jouait très très bien, mais il chantonnait toujours ce qu'il déchiffrait, avec un papier maïs au bec. Et il y avait tout le temps, au lieu d'une bonne femme ou d'un mec qui tourne les pages, j'entendais ma mère t'assendre. Donc la guitare, mon frère en chant, moi c'est une espèce de maladie. Enfin, je faisais du dessin à l'époque, là. J'étais dans un truc publicitaire et j'ai un genou qui est devenu assez énorme. Bon. Non, mais que ce soit la quéquette, là, ça aurait été normal. Mais
c'était genou, que le genou, quoi.
Mais que le genou. Alors, j'ai dit, il y a peut-être un problème. Mais... Donc, j'avais ce qu'on appelle la maladie de Bouillot. C'est un microbe qui vous file un rhumatisme, mais qui se déplace. Donc, le danger, c'est qu'il n'aille pas au cœur. Sinon, au cœur, il y en a passé ailleurs. Donc, je suis resté à peu près 6 mois allongé, quoi. Hein. Mais chez moi, hein. Je mettais 20 minutes pour me lever. Hein. Pour une jambe. Alors, imaginez s'il y avait eu les 4, il valait mieux rester couché. J'avais pas de télé, ni de scope, ni de. Mais pas de DVD, pas de conneries de maintenant, là. Putain, j'allais boire le micro. Pardon. Je jure que c'est vrai. Mais... Bien de faire ça. Et donc, je me suis mis à la guitare. Oui.
Alors, je crois que votre grand-père était violoniste. Votre père, donc, était pianiste.
Grand-père, violoniste. Là, vous m'en apprenez des choses, je sais pas.
Je crois que c'est Jésus qui a dit ça.
Ah, peut-être que mon père lui a confié, je sais pas. Je sais que j'avais son frère aîné, mon oncle Jean, qui a fait la guerre de 14, comme dans les Sentiers de la Gloire, qui n'avait que pour seule arme un pistolet d'ordonnance et un sifflet. Et... Ah non, pardon. Je peux pas à cette heure-là. J'y arrive pas. Bon, on fera une autre fois. Et donc, et lui sautait les tranchées pour aller gagner 10 centimètres face aux Schmunz. Lui, j'ai la mémoire de donc le Jean, qui restait quand même 5 heures à table, hypertension garantie, 25-12. C'est le jour de Noël, lui, vraiment, c'était Noël. Lui jouait du violoncelle. Et lui, son truc, c'était de nous jouer la mort du cygne, je n'en pouvais plus. C'est dans le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. C'était effrayant. Ouais. Ça, c'était les dimanches à Montrouge, où j'étais considéré comme un truc bizarre. On mettait dans un placard avec des crayons de couleur. Et...
Vous aviez aussi un oncle batteur. Vous pensez qu'il y a un atavisme dans la famille Dutronc sur la musique, ou vous ne croyez pas à ce genre
non,
de choses?
Non, mais c'était tous musiciens, oui. Hein, ceci dit. Ouais.
Enfin, y avait aussi des ecclésiastiques, hein, je crois.
Oui, oui, jésuites, même. Il faut aller plus loin, là.
Ah bon?
Oui, oui, oui. Ah, oui, oui.
Et vous croyez à ce genre de choses, que la musique rentre dans une famille comme ça, ou...
En ce qui me concerne, toute ma famille, enfin ma grand-mère, qui me détestait, je suppose, avait été musicienne, et son mari a dû l'être, c'est-à-dire mon grand-père, et tous ses enfants, c'est-à-dire dont mon père, étaient tous musiciens pratiquement, même ma tante, qui est morte à 102 ans, ce qui prouve que ça aide. Elle a la même chanté à l'opéra, tout ça, mais le vrai, le Garnier, tout ça, le vrai. Fin... Non, mais ils étaient tous plus ou moins musiciens, dont un qui s'appelait Jacques, d'ailleurs, qui était formidable, mais il est mort tout jeune. Ouais. Il avait, lui, fait un orchestre, un espèce de petit big band de jazz, mais il était batteur, lui. C'est quand même très rare comme vocation d'être batteur, parce que c'était plus quand même piano et on chante, ou violoncelle, comme mon oncle Jean, ou je sais pas quoi. Bon. Enfin, un peu bourgeois, quoi, mais bon... C'est marrant de choisir ouais. Une batterie à cette époque-là. Parce que puis il est mort, il s'est fait tuer 2 jours au début de la guerre. Je ne sais pas, il faudrait demander à Jésus. Pas le vrai, l'autre, là. Mais ils étaient tous plus ou moins musiciens. La musique était présente de toute façon.
Dans la famille Dutronc, quoi.
Ouais, mais enfin, c'est pas ça qui... S'ils savaient que la plupart, j'avais fait moi et moi, 3 accords. Il y a mon oncle Paul, qui lui était quand même le directeur du collège d'Evreux. Collège de jésuites, lui m'est rechigné sur tout ce que j'avais fait. Fin... Et plus tard, il a découvert, je ne sais pas, c'est un mot quand même très... Ça fait un peu... ouais, ça fait un peu prétentieux. Là. Pas découvert, mais il a dû écouter, ou je ne sais pas, on a dû lui dire. Et il m'a envoyé un tas de lettres formidables, de félicitations. Mais si c'était paru comme critique dans... Arrêt lettre ou je sais pas quoi, c'est formidable. Non, mais d'un seul coup, il a apprécié. Mais c'était trop, quoi, ce qu'il en disait, alors que moi, c'était tout simple. C'était des bêtises balancées comme ça, quoi. Enfin, des bêtises, plus ou moins, mais c'était pas spontané, mais presque.
France Inter.
Je sais pas pourquoi la musique, moi, m'a plu. Je pense qu'il y a quelque chose. Le père de mon père, donc mon grand-père, était aussi musicien. Il y a des musiciens dans la famille Dutronc. Moi, je pense que c'est quelque chose dans les gènes.
Après le fils, le père et le rock'n'roll.
Mon frère ayant quand même quelques années de plus que moi, 8 ou 9 ans, je ne sais pas, lui était quand même branché sur le jazz. Et on avait réussi à avoir... Il y avait un truc qui s'appelait la guilde du jazz. On recevait un espèce d'électrophone et des disques. Il y avait des extraits de Charlie Parker ou Art Tatum, un tas de trucs comme ça. Et ça, j'écoutais ça avec plaisir. Et j'allais voler quand même quelques disques classiques, pas loin de chez moi, rue de la Chaussée-Lantin.
Vous alliez quoi ?
Voler.
Ah, pardon.
Ouais, non, mais je sais pas. Non, mais parce que je passais pour un con de ne pas en voler. Alors, bon, enfin, c'était plus dans les surbooms. Mais sinon, moi, j'en ai volé un ou deux. Bah, c'est-à-dire que par moments, j'aimais trop ce disque. Je me dis, si on me l'achète avant, ça va être terrible. Non, mais j'étais prêt à ramener l'argent plus tard, au cas où, mais j'en avais pas. Alors. Et donc, c'était classique et surtout jazz. Ouais. Classique, ouais, beaucoup, j'ai beaucoup écouté. J'écoutais que ça, quoi. Et puis, à la radio, par contre, j'avais droit à Annie Cordy, quand même, plus tard. Ça, c'est plus tard, quand même. Ah, putain, c'était bien. Mais donc, j'écoutais surtout du classique, quoi. Ouais. Variété, pas beaucoup. Après, j'ai eu quelques disques, comme on dit, de variété. Bon, je sais qu'il y a un disque que j'avais, ça, de toute façon, c'était le blues du dentiste, ça. Et j'avais un autre truc, la fanfare de Champignol, avec Jean Richard.
Déjà la fanfare.
Eh oui.
Donc, pas le rock'n'roll à ce moment-là, quoi.
Non,
ah, pardon.
J'en suis à blues du dentiste,
Ce qui est déjà pas mal. Hein,
ah oui, il était là. Et en plus, Quincy Jones, déjà. Ma mère adorait Salvador, c'était son idole. Bon, il y avait des Marino Marini, des petits trucs comme ça. Mais ça, c'est plus tard. Mais, et surtout est arrivé Presley. Non, mais avant Presley, où en même temps, il y avait quand même Neil Sedaka et tout ça, là. Oh, Carole et tout ça. Ah, putain, ça, c'est important. Oh, Carole. Enfin bon. Et puis, il y avait Paul Anka, surtout. Ça, c'était obligatoire. Tout ça a amené que, d'un seul coup, enfin pas d'un seul coup, en même temps, machin. Bon, il y avait Ray Charles aussi, à ne pas oublier, Fats Domino, bien sûr, oh là là, très important, et à ne pas oublier, donc Presley, pour moi, a balayé tous ces gens-là. Pas balayé, mais c'était quand même le maître. C'était le seul qui, pour moi, maintenant, je le réécoute et je me dis, je me gourais totalement, pour moi, il me faisait penser à un voyou, alors que c'était pas du tout ça, mais...
La vie artistique de Jacques Dutronc a commencé par un groupe. C'était Triton ou Driton, enfin quelque chose comme ça.
Driton.
Driton.
Italien.
Voilà.
Driton. Mais là, on jouait genre Shadows, tu vois, des trucs de guitare. Driton, c'est... Il y a Huster, Charles Benaroc. Il y avait Licard, Lalique, qui après, plus tard, lui est devenu chauffeur de Mitchell. Et il y avait Charlot à la batterie. Et donc, on s'appelait les Dritons, parce qu'on avait pris un mec qui s'appelait Ferruccio Baldacci, et il chantait « Gogobille, Gogobille », je sais pas quoi, enfin, il disait tout le temps « Gogobille, 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 Gogobille bon. ».
Donc, si j'ai bien tout compris, après les Dritons, c'est les Cyclones, hein ?
France Inter.
Alors, sur El Toro et les Cyclones, j'ai envie de passer le Vagabond. Ça vous va comme chanson ? Vous en voulez une autre ?
Alors, le Vagabond...
J'aime bien, je trouve Danny, ça pas mal. Hein.
Danny, enfin, El Toro, ouais. Danny Drey. Et tu parles du Wanderer, là, c'était Dion qui chantait ça. Dion. Dion, c'était le Wanderer, je crois, à l'époque. Et c'est une adaptation. Ouais, ouais. Certain. Il n'arrivait pas à dire le Vagabond, c'était le Gavabond. Car je suis le Gavabond. Je suis toujours comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Car je suis le gars Vabron. Fallait pas trop rire parce que. Non, mais il était sympa, mais ce qui avait de drôle, c'était que dans le siège passager, il y a toujours une espèce de pare-soleil, là. Il y avait même à l'époque une petite vitre. Et il se fixait dedans, il faisait le rictus à la Presley. la bouche, la lèvre légèrement relevée, c'était incroyable. Mais il était sympa, il avait de beaux yeux. Tout.
C'était un bon chanteur ?
Bah oui, bah il chantait plutôt mieux que les autres, hein, parce que. Il faut se remettre à l'époque. Comparé à ce qu'il y avait, c'était effrayant. Hein.
Oh, je suis le genre de gars qui ne pense qu'à s'amuser. Je cours de fille en fille, je n'en ai jamais assez. J'avais de gauche à droite en essayant de les tomber. Et oui, je vous l'avoue, c'est bien ça mon grand péché. On m'appelle le vagabond. Je suis toujours comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Marie-Claire et Dorothée, Annick et Vilsévie, puis Gisèle et Marité. Avec toutes ces poupées, j'aurais bien dû m'arrêter. Mais plus j'en rencontrais, plus je voulais continuer. Car je suis un vagabond. Je suis toujours comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors je cours de ville en ville, et sans jamais. Simplement je vous flirter. Et je n'ai qu'une envie, c'est de toutes les aimer. Car je suis le vagabond. Je suis toujours comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, oui. Comme ça, car je suis un vagabond. Je suis
Et moi, et vous, la suite sur France Inter.
Comment vous avez obtenu le poste d'assistant de Jacques Volson? Vous avez fait un entretien d'embauche, vous avez fait une rencontre dans un bar, c'était du piston. Ça s'est passé comment comment vous avez obtenu votre travail, votre salaire?
L'affaire est simple, puisque on parlait de, je sais pas quand d'ailleurs, on a parlé de Del Toro et les cyclones, c'est quand même Volson qui, après s'être appelé les Dritons, comme Johnny était chez Vogue, directeur artistique Volson, Jacques Volson, on s'est dit pourquoi pas. Et si jamais, puisque c'était un peu tout le monde essayait de faire un disque et machin, bon. Donc nous allions nous mettre en route pour aller chez Vogue. Et j'ai dit, mais le mieux, c'est d'aller faire les auditions rue d'Audeville, parce que chez Vogue Direct, ils vont nous envoyer je ne sais où. Et enfin, je ne sais plus bien le biais, ce qui a fait que j'ai atterri au 54 rue d'Audeville par rapport à des éditions, parce que je devais être branché sur les formats éditeurs, moi, et qui eux amenaient une maison de disque, je ne sais pas quoi. Bon. Et donc nous sommes allés voir la seule personne, il y avait M. Ferreri, qui était un des tourliers aussi, qui se faisait appeler Tony Danieli aussi, parce qu'il faisait des disques de saxo et tout. Infernal, lui, parce que dès qu'il nous voyait, il faisait djin djin, djin djin, la guitare, il y en a marre, hein, djin djin djin, me casser les oreilles. Bon, enfin, peu importe. J'ai dit au contraire, c'est que ça va plaire. Bon. Donc, nous allons voir Volson, on auditionne, il nous fixe, le connaissant, il dit c'est de la merde, au revoir. Bon. C'est tel que, je dis bon, bah, il y a au moins, encore au moins quelqu'un d'honnête, et il me plaît, il est original et il me plaît. Par contre, il m'a dit, toi, viens ici, tu joues ou quoi? Tu composes ou pas? Alors, je dis, je sais pas, ouais, je peux faire des chansons, des trucs, des musiques en tout cas. Enfin, tout ça, bon. Et donc, il m'a mis un peu à part de ce groupe, mais il m'a dit, bon, de toute façon, on va faire un disque, il faut trouver un chanteur. Donc, je sais pas qui, je sais pas si c'est Adi Calafate qui a trouvé Danny, Dre, enfin El Toro. Et donc on a fait ce groupe, et Volson a dit ok, on enregistre, et c'est lui qui a trouvé le nom Volson, El Toro et les Cyclones. Bon. On a fait deux disques même, je crois. Après nous partons en tournée, faire des trucs invraisemblables, mais Volson, pardon, excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge.
Un chat.
Ils sont en bas, mais non, pas un chat.
Ah pardon.
Ah ben non, ils sont tous en bas. Et donc, m'ayant pris plutôt à part, il m'a dit, bon, bah, il a un langage quand même assez particulier, démerde-toi, fais des mélodies, démerde-toi. Travaille, fais des mélodies, monsieur. J'ai fait le temps de l'amour.
Fort Chabrol.
Ouais, Fort Chabrol, que lui a appelé Fort Chabrol, c'est lui qui a appelé ça Fort Chabrol. Les fantômes travaillant dans la cave, j'étais avec eux, je leur ai filé Charlot, qui était dans les Dritons, à l'époque, comme batteur. Donc j'ai connu Danny Maran, Dean, bien sûr, Dean Norton, qui s'est occupé, qui travaillait chrono ensuite. Jacky Pazu, qui se gratte les couilles tout le temps, mais il est dans le pétrole maintenant.
Donc il continue.
Oui, fait, c'est...
pardon.
Bah, il jouait bien, non, c'est bien les fantômes, c'était bien. Et donc ils ont fait Fort Chabrol, et moi je suis resté là-dedans. Après j'ai refait Françoise a trouvé ça, etc. Et moi j'ai refait d'autres chansons pour Françoise, et je suis resté. Son compositeur attitré, donc j'étais assistant directeur artistique, mais je m'occupais, enfin c'est ce que Mitchell a dit, et c'est ce qu'on disait. Bon, et c'est vrai que je classais plus ou moins les cassettes, j'écoutais ce que les mecs faisaient, c'est très emmerdant de juger, quoi, c'est pas mon métier, mais faut pas, ou alors faut pas l'être du tout. Un homme d'affaires peut juger. Bon, souvent Volson a fait l'artiste avec les hommes d'affaires et l'homme d'affaires avec les artistes. Il fallait savoir négocier ça, mais sinon ça m'était difficile de dire à un mec c'est pas bien, tu vois. Parce que je disais, s'il ose présenter ça, c'est que le mec il croit, quoi. Ou alors, moi à un moment je rêvais, je pensais que les gens avaient beaucoup d'humour et j'éclatais de rire, et le mec devenait blanc, je disais qu'est-ce qu'il y a. Je disais non, rien, je pensais une blague qui me revient, mais.
Donc vous étiez plus que directeur artistique, vous étiez déjà compositeur.
Bah je faisais que ça, puis après Zouzou aussi.
Ah oui, mais qu'est-ce qu'on fait, on nourrit les chats ou on écoute Zouzou?
Je vais nourrir les chats.
Allez, on va nourrir les chats.
Et après on écoute Zouzou, d'accord? Bon. La porte n'est pas fermée. Ah.
Avec Bénichou, on chantait tout le temps. Quand on se rencontrait, c'était notre truc. On chantait tout. Quand je touche ton pompon, touche pas mon corsage. T'es joli garçon, mais moi, je suis sage. Et donc, un jour, Bénichou me dit, il faut que tu chantes. Je vais te présenter à un ami. Donc, je vais rendez-vous chez Vogue avec ce fameux Volson. Et donc, j'arrive chez Vogue et je vois deux mecs en train de ricaner, évidemment. Et c'était Dutron Volson. Ça ricanait surtout, quoi.
Mais est-ce que ça veut dire que c'est vous qui lui avez dit « Vas-y, compose pour moi ». Il ne l'avait jamais fait avant ?
Mais non, parce que personne ne lui avait demandé. Il était assistante de Volson. Il se préparait une vie de directeur artistique. Et après avoir fait mes chansons, Volson a eu la brillante idée de dire à Dutron « Écoute, là, j'ai des paroles de Hansmann qui me bassinent depuis des mois. » Je ne savais pas quoi en faire, mais attends, pourquoi tu ne les chanterais pas ? Puisque tu joues de la guitare, tu chantais dans t'avais ton groupe et tout, bon, tu dois bien être capable de faire quelque chose. Il a fait 500 millions de petits chinois et moi et moi et moi, et c'est devenu une énorme star. On avait plus une culture rock, mais bon, c'est quand même 64-65, les Stones, les Beatles existent, et donc il a aussi une culture plus élargie. Et puis bon, je veux dire, il est surtout tout à fait curieux d'écouter les trucs. Il y avait un truc, je me souviens, que j'aimais beaucoup, qui était un truc très folk américain. Je m'étais dit, je ferais peut-être une adaptation. Il m'a dit non, je vais te faire quelque chose dans le même genre. Et puis voilà, quoi, je veux dire, en lui faisant bien comprendre ce que je voulais, il a très très bien pigé. Je ne peux pas avoir de souvenirs précis d'enregistrement, de cette chanson particulièrement, mais les souvenirs d'enregistrement, je veux dire, où évidemment, j'étais moi dans une petite cage en bois entièrement fermée, avec mes écouteurs, et dans, évidemment, tout ce que Dutron disait dans son micro, je l'avais dans mes écouteurs. Et évidemment, pour me faire marrer, il disait que des cochonneries, quoi. Alors, je me marrais, et quand il fallait que je chante, je disais, écoute, ferme-la, quoi, parce que ça va, quoi. De temps en temps, je hurlais.
C'est vrai ? Un, prêt ? Amigos ?
Rosso.
Señorita ? Rosso. Un.
De rigueur.
Oh, merde.
Un.
Bravo.
Éteignez la lumière dans le studio. Un.
Alors ?
Bah attends, il avait pas de casque. Un, deux. Un, deux, trois.
J'ai oublié le temps où tu m'as fait pleurer. Et je ne t'en veux pas de m'avoir délaissé. Puisque tu es revenu pour m'aimer et que tu es heureux de m'avoir retrouvé, nous poursuivrons ensemble le même chemin et pour toujours nous irons, toi et moi, main dans la main. Notre vie n'aura commun. Et notre amour ne connaîtra pas de fin. Nous pourrons tous les deux, sans peur du lendemain, sourire à notre vie dès le matin. Maintenant je le sais, je n'ai plus de regrets. Jamais te contrarier. Aujourd'hui ma vie s'est transformée, puisque tu es revenu pour m'aimer.
Comme je faisais les maquettes, moi, par rapport à Zouzou et machin, ou je sais pas qui, ou que ce soit Benjamin, ou je sais pas quoi. Il y avait une autre fille qui s'appelait Nebo aussi, Anne-Marie Nebo, si. J'enregistrais donc les chansons pour les autres. Et Volson m'a dit, essaye ça, démerde-toi, fais la musique, essaye ça. Donc c'est comme ça le passage, c'est peut-être pas très clair là, mais je pense que...
Donc c'est Volson qui vous a dit, passez de l'autre côté, chantez.
Non, pas passer de l'autre côté. C'est-à-dire que chantant pour les... composant des musiques pour tel ou tel chanteur ou chanteuse, et faisant les maquettes, parce qu'on appelait ça des maquettes, je les enregistrais moi, je disais, c'est plus simple, écoute, voilà, tu chantes comme ça. Donc Volson m'a dit, bon bah... Tiens, ça, chante ça, je veux voir ce que ça donne. Les textes de Lanzmann, chante ça. Et quand je me suis amusé à faire ça, il m'a dit, bon, ben stop. C'était pour Adi Calafate, soi-disant, au départ. Et Volson a dit, stop, on arrête tout, c'est toi qui le chante. Enregistre-le, toi. Voilà. 700 millions de Chinois. Bon. Ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait une usine... Volson a demandé à je ne sais pas qui, Jacques a demandé à, je sais pas, parce qu'il y avait Peter Flam aussi, il ne faut pas l'oublier, un ami de toujours que je ne vois plus, et là je le regrette. Bon. Lui était là, Bebop, tout ça, donc tous ces gens-là devaient participer, parce que c'était, j'étais bien un rappeur bien avant les autres, je n'étais pas seul, je n'étais pas Aznavour seul avec un comptable ou net. Moi, il y avait 10 potes toujours, donc tous fallait qu'ils fassent quelque chose. Donc je sais que Wolfson, enfin Jacques, a envoyé je ne sais qui chercher un tas d'accessoires pour faire une usine derrière moi. Et moi, si tu écoutes, c'est... Bon, s'il y avait 48 pistes comme maintenant, alors là, c'est... je viens de redire pistes, hein, il n'y a rien à faire. J'ai envie, c'est pour ça. J'ai envie de te dire... Bon, alors donc... Il y a une cantine, une malle, je ne sais pas, un truc gigantesque d'accessoires. Et là, alors là... Et comme il n'y avait pas assez d'aigus, c'était très dur, trois pistes, machin, il n'y avait pas tout le matériel. Donc ça, c'était Vogue. C'est ce que j'ai toujours reproché. Pas de basse. Les mecs étaient ennemis de la contrebasse, de la basse, contrebasse, basse. Alors que moi, j'adore la basse. D'ailleurs, au casino, en tournée dernièrement, j'en avais deux. C'est une revanche, ça s'explique. Ils détestaient ça, c'était coupé, ça faisait sauter leur gravure. Ça faisait les basses. Donc, moi, j'adorais ça. Donc, enfin bon, j'étais très emmerdé. Mais enfin bon, il y avait un tas de matos terribles derrière. Et on l'a fait en direct je ne sais combien de fois, puisque, je sais pas, enfin moi je me plantais pas, mais je sais pas, on rigolait, ou je sais pas. Enfin, c'était, je ne vais pas dire une autre époque, mais ça l'est presque, parce que, bon d'abord les chiffres de la chanson sont plus exacts, mais enfin le sens est toujours le même. Ce n'est pas les chiffres qui comptent, hélas. Ouais, c'était bien, enfin c'est une espèce de communion... Bon, ce qu'il y a d'ennuyeux, c'est qu'effectivement, il n'y en a qu'un qui chantait, et voilà. Certains ont eu une espèce de... d'écharpe qui les étouffait un peu, dans le genre, ouais, pourquoi lui et pas moi t'fin. Mais ça, c'est la vie, je suis désolé. Hein.
Et tant mieux.
Et à certains, j'ai répondu, je sais pas si t'aurais été bien dans Van Gogh. Ouais.
Sans imparfait, et moi les qualités que vous avez.
Mes qualités. Mes qualités ne sont mises en valeur que par mes défauts, en tout cas.
Vous êtes fidèle.
Oui.
Non, mais sérieusement, vous êtes fidèle dans la vie. Vous
êtes. Je suis là tous les soirs.
France Inter.
Mais fidèle aussi avec vos amis. Ah, avec... Oui, oui. Bon, vous êtes imprévisible. Ça, c'est pour moi la qualité peut-être la plus fabuleuse.
Oui, c'est bien ça.
C'est vrai, c'est pas travaillé.
Du moins que je ne suis pas le pilote, c'est mieux.
Oui. Vous avez inventé la décontraction en scène. Tout au moins, vous en êtes un titulaire extraordinaire. Ouais, c'est... Est-ce que néanmoins, vous avez le tac quand même avant?
J'ai pas eu la chia, si c'est ça que vous voulez dire.
Parfait.
Pourtant, pour faire artiste, j'ai pris des laxatifs, tout, mais rien.
Bon.
Enfin bon, il y a toujours un petit...
Et puis, là, ça, je peux pas l'affirmer. Moi, je pense que vous êtes quand même un peu fêlé. Mais est-ce que vous êtes fêlé ou est-ce que vous faites semblant de l'être?
Faire semblant d'être fêlé, là, ce sera encore plus... Là, ça devrait être vraiment fêlé, là. Alors, vraiment, là. Parce que comme je dis toujours, les gens sont si nécessairement fous que ce serait fou, par un autre tour de folie, de n'être pas fou.
Et puis alors, quitte à vous fâcher, là, et Dieu sait que je vous aime bien...
Je peux avoir mon instrument.
Mais quitte à vous fâcher, je crois que vous êtes un type foncièrement gentil. Et je sais que c'est horrible à entendre pour vous, mais je crois que...
Bah, tout dépend où on place la gentillesse.
Oui. Bon, bah, moi, je vais m'arrêter parce que j'avais juré d'être court, j'avais fait des notes que je n'ai d'ailleurs même pas regardées. Je suis très fier de moi. Et ce que je peux dire avec vous, Jacques Dutronc, je vous aime bien, je considère que vous êtes un des meilleurs comédiens de votre génération. C'est vrai, c'est pas de la flatterie. Vous êtes d'accord, vous êtes là tous, c'est bourré, c'est complet. Alors, bon.
Allez, si, hein?
Et que la seule chose qui est agressive chez vous, hein, la seule, ce sont vos silences et vos lunettes.
Et je vois rien, sinon, puis ils sont tellement éblouissants que...
Voilà. Je sais pas... Non, puis c'est vrai, quand vous vous taisez, vous avez l'air de prendre les gens pour des cons, et c'est formidable.
Il faut que je parle tout le temps, alors.
Moi, je suis timide. J'ai découvert que Johnny était extrêmement timide aussi, et la plupart des gens sont timides, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on se retrouve sur scène. Non, mais je vais pas faire de raccourci, mais c'est vrai que je suis assez timide.
Puisque vous êtes vraiment très très gentil avec moi, les applaudissements sont parfaits, mais ce qui me manque, c'est un triomphe. Vous savez ce que c'est le triomphe? C'est les mêmes applaudissements, mais debout. Merci, merci beaucoup, merci Malta. Merci beaucoup.
Et moi et vous, une émission coproduite par la Radio Suisse Romande, Radio-Canada, la Radio-Télévision Belge Francophone et France Inter. Réalisation Philippe Labrousse, assisté de Godric Gros-Vermeil, mixage Michel Thomas, documentation Janine Marc-Peset. Merci aux fées clochettes Emma et Sylvie. Olivier Bas, rendez-vous pour Dutronc,
le musicien. C'était le premier numéro du feuilleton des médias francophones publics consacré à Jacques Dutronc. La suite des aventures de notre Playboy demain à 14h.